Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le référendum du 25 juillet prochain en Tunisie, référendum sur une nouvelle constitution. Une nouvelle mouture a été publiée au journal officiel avec la modification d'articles controversés. Nous y reviendrons avec le président d'État Katol, l'ancien ministre Khalil Zaouia. L'aide humanitaire fournie par l'ONU à près de 4 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie. Le Conseil de sécurité a dit oui à un projet de résolution qui vise à prolonger de 6 mois la résolution adoptée pour la première fois en 2014. Après le remaniement du gouvernement le 4 juillet dernier, gros plan sur les attentes des associations sur les questions liées au handicap. Nous écouterons le coordinateur du collectif handicap, Stéphane Lenoir. Premier test, premier échec, le gouvernement français, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'a pas réussi à faire adopter dans son intégralité son projet de loi sur le pass sanitaire. J-12 avant le référendum du 25 juillet sur une nouvelle constitution en Tunisie. La nouvelle mouture a été publiée au journal officiel. Kais Saied a modifié deux articles controversés. L'un évoque la place de l'islam, l'autre les droits et libertés. Au chapitre 5, le président a introduit la mention au sein d'un système démocratique dans la phrase affirmant que la Tunisie fait partie de la communauté islamique et que l'État doit travailler pour atteindre les objectifs de l'islam. L'autre passage important concerne l'article 55. Il dit désormais qu'aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis dans la présente constitution, si ce n'est en vertu d'une loi et d'une nécessité imposée par un ordre démocratique. Le président d'État Katol, l'ancien ministre Khalil Zaouia, estime que le chef de l'État tunisien était dans l'obligation d'effectuer ces modifications. Khalil Zaouia.
Le président était obligé de faire des modifications parce qu'il y a eu un tollé général, national et même à l'étranger, et notamment les deux personnes qui étaient chargées de préparer un projet et qui lui ont présenté un projet le 20 juin dernier et qu'il a mis de côté en écrivant un projet lui-même qui avait beaucoup de fautes dans la rédaction. Le texte publié comportait beaucoup de fautes de littérature, si vous voulez, et d'agencement. Et par la suite, il y avait des articles qui étaient controversés et qui touchaient soit aux droits de la femme, tels que le droit de se présenter à l'élection présidentielle, et puis le Parlement, donc on ne savait pas si la Chambre des députés était élue ou nommée, donc ça laissait la porte ouverte à toutes les éventualités de ce qu'il appelle, lui, le système de base, le régime de base, où les députés sont choisis un peu au tirage au sort. Où sont nommées les modalités de la constitution de la Chambre des députés n'étaient pas claires. Donc il y a eu un tollé, et puis l'histoire de la religion, parce que les objectifs, l'État est responsable d'assurer les objectifs de l'islam, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations, et notamment les interprétations salafistes. Et donc il y a eu un tollé, il fallait rajouter des choses, le régime démocratique. Donc, je crois que c'est des arrangements cosmétiques beaucoup plus que sur le fond, parce que le fond est l'essentiel. C'était le régime politique qui est un régime personnel, autoritaire, qui ouvre la porte à la dictature.
Quels sont les articles qui vous font dire cela?
Le président n'est responsable devant aucune instance, aucune. Il ne peut pas être questionné, il ne peut pas être démis s'il commet des fautes graves, il ne peut pas être interrogé par aucune instance, même la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'intervient que si le président présente un projet de réforme constitutionnelle, c'est tout. Ça, il n'a aucune responsabilité politique. Le gouvernement, c'est lui qui le nomme, il n'a pas besoin d'être investi, il est responsable devant le président et aucune responsabilité devant le Parlement. Le Parlement a juste une fonction, ce n'est pas un pouvoir législatif. Il n'a pas le droit de contrôler le gouvernement. S'il y a une motion de censure, il faut qu'elle obtienne les deux tiers. Le gouvernement n'est pas investi par l'Assemblée. Vraiment, un Parlement totalement domestiqué. De même pour la justice, qui n'est plus ni un pouvoir ni un système, c'est une fonction. Donc, comme un simple fonctionnaire de l'État, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président. Les nominations essentielles, c'est le président. Donc c'est les bases d'un régime présidentiel autoritaire, personnalisé par excellence.
Quelle sera la position d'État Katol le 25 juillet prochain? Le Front du Salut National a renouvelé son appel à boycotter ce référendum. Que fera État Katol?
Alors, Etecatol fait partie d'une coalition de 5 partis de gauche qui ont créé une coalition qu'on a appelée la coalition pour faire échouer le référendum, pour l'échec du référendum. Donc, on a appelé au boycott et on a maintenu notre position de boycott du référendum. Nous pensons que avec cette instance des élections qui est aussi domestiquée, puisqu'elle a été nommée, puisque ça, la loi qui la régit a été modifiée par le président, et actuellement, elle est en train de voir tous les dépassements inimaginables. Aujourd'hui, la loi électorale est très claire. Il est interdit à l'État de faire campagne, à la présidence de faire campagne, à l'utilisation du drapeau du pays pour faire campagne. Et on voit partout des banderoles qui utilisent ces moyens-là et de l'argent qui est dépensé, on ne sait pas par qui, des banderoles partout dans la rue avec des panneaux publicitaires en disant « allez voter oui pour soutenir le président ». Et donc, tout ça, l'instance des élections l'observe sans réagir, sans prendre de mesures. Donc, c'est une instance dont le rôle est de faire réussir le référendum avec un très fort taux de participation et de vote positif.
Khalil Zaouia, vous avez été ministre des Affaires sociales. Comment vous qualifiez la situation sociale aujourd'hui en Tunisie? La Tunisie en proie à une crise économique et également à une forte inflation à cause notamment de la guerre menée par la Russie en Ukraine.
La situation sociale et économique, elle est très difficile. Nous sommes en pleine crise économique avec un taux de croissance en berne, on est autour de 1,5%. Ce serait excellent si on arrive à 1,7 en fin d'année, avec surtout un problème des finances publiques où on ne sait pas comment le reste de l'année budgétaire va être financé. Donc avec un gouvernement qui est en train de négocier en catimini avec le FMI sur la base d'un dossier qui a été concocté en 2021 par l'ancien gouvernement qui a été démis par le président, le gouvernement Meschichi. Ils ont repris exactement le même dossier avec les mêmes mesures difficiles, sociales difficiles. Et la tranche qui va être libérée, la tranche de financement qui va être libérée par le FMI, n'est pas une somme qui va, même pas un chiffre qui va permettre de financer le reste du budget. Ça va être de l'ordre de 300 millions de dollars. Ça ne permettra pas de financer le budget qui a besoin. Donc 300 millions de dollars, ça fait 1 milliard de dinars à peu près, alors que l'État a besoin de 10 milliards. Donc ça représente 10% de nos besoins. Donc on ne sait pas comment ça va se financer. Aujourd'hui, on approche lentement d'une inflation à deux chiffres. C'est une situation difficile qui risque de faire changer les choses d'une manière... très dur même, très dur. La rentrée scolaire va être très difficile, très très difficile. Il va y avoir peut-être une grève générale décidée par l'UGTT à la rentrée. La décision a été prise, mais la date, on ne sait pas quand.
Le président d'Etacatol en Tunisie, l'ancien ministre Khalil Zaouia. Le président américain se rendait ce soir en déplacement au Proche-Orient, sa première tournée au Proche et Moyen-Orient. Joe Biden doit atterrir en Israël dans la soirée avant de passer la journée de demain à Jérusalem et de se rendre vendredi à Bethléem où il doit rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Joe Biden se rendra ensuite en Arabie Saoudite, un allié stratégique des États-Unis et premier exportateur de pétrole mondial. Les États-Unis qui ont annoncé avoir tué le chef du groupe Daesh en Syrie. Maher al-Aghal, présenté comme l'un des 5 plus hauts dirigeants de l'organisation terroriste, a été tué dans une frappe de drone dans le nord-ouest du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a confirmé sa mort. Cela concerne près de 4 millions de personnes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution qui prévoit un prolongement de 6 mois jusqu'au 10 janvier du mécanisme d'aide transfrontalière à la Syrie, une durée imposée par la Russie alors que tous ses partenaires voulaient un an. La résolution a été adoptée par 12 voix sur 15. Cette résolution a été adoptée pour la première fois en 2014. Le texte prévoit la reprise par l'ONU de l'utilisation du point de passage de Bab al-Hawa, situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie, une région qui échappe au contrôle du président syrien Bachar al-Assad. Après le remaniement du gouvernement français le 4 juillet dernier, regard sur les attentes des associations sur les questions liées au handicap. Jean-Christophe Combes est le nouveau ministre de la Solidarité et de l'Autonomie et Geneviève Darrieussecq est ministre déléguée aux personnes handicapées. Entretien avec le coordinateur du collectif handicap, Stéphane Lenoir.
Nous, on se satisfait depuis le début de cette architecture gouvernementale dans la mesure où on a un ministère de plein exercice qui à la fois est chargé, nous semble-t-il, de la mise en place de la cinquième branche autonomie, mais aussi qui nous permet d'avoir une interlocutrice directe sur toutes les questions liées au handicap. Alors néanmoins, cela ne signifie pas que toutes les questions liées au handicap devront être traitées par ce ministère. Nous, on considère que la question du handicap est transversale et que donc c'est chacun des ministres aussi qui doit s'approprier les enjeux selon leurs compétences liées au handicap. Et donc on espère qu'on aura un gouvernement pleinement mobilisé pour aborder l'ensemble de ces enjeux. Nous, très clairement, ce qui va nous importer, c'est la transversalité, c'est la manière dont le gouvernement et chacun des ministres va être en capacité de regarder au sein de son ministère de quelle manière il va pouvoir répondre au quotidien des personnes en situation de handicap. Donc ça peut être sur tous les sujets, hein, le logement, les transports, l'environnement, sur les ressources, etc., etc., tous les enjeux qui ont trait au handicap.
Vous souhaitez donc que le chantier de la cinquième branche autonomie soit une priorité de ce quinquennat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que est cette cinquième branche autonomie?
Cette cinquième branche autonomie a été créée lors du dernier quinquennat et elle a pour objectif de soutenir l'autonomie des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. Donc il y a effectivement un enjeu fort et on souhaite que ce nouveau quinquennat et donc ce nouveau ministre prenne très très rapidement la mesure de l'enjeu puisqu'on souhaite que cette branche autonomie soit financée complètement, hein. Il y a encore des enjeux de financement et puis qu'on regarde collectivement quels droits on peut y mettre à l'intérieur pour permettre à chaque personne en situation de handicap d'avoir un parcours de vie le plus fluide possible, d'avoir accès à ses droits, et notamment en termes de droits à compensation, sans limite d'âge, hein, puisque c'est aussi ça l'enjeu, c'est quand même d'avoir une prestation universelle de compensation, et donc de supprimer cette barrière d'âge des 60 ans, au-delà de laquelle un grand nombre de personnes n'ont plus accès aux droits ouverts par la MDPH.
Vous soulignez qu'une grande partie des personnes en situation de handicap vit en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que vous demandez des mesures spécifiques pour ces personnes face à l'inflation galopante, notamment en France?
Effectivement, hein, ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste. Et donc, la hausse des prix impacte directement les personnes les plus modestes, hein, et notamment une grande partie des personnes en situation de handicap, et notamment celles qui sont allocataires de l'AAH, mais aussi celles qui sont allocataires des pensions d'invalidité, et pour qui, en fait, les revenus sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc nous, on attend que le gouvernement, au travers du projet de loi sur le pouvoir d'achat, se mobilise pour augmenter ses prestations. Et on revendique toujours un revenu universel qui sera au moins égal au seuil de pauvreté pour permettre à chacune et chacun d'avoir un niveau de vie décent.
Augmenter ses prestations, c'est-à-dire les augmenter au niveau de l'indice de l'inflation aujourd'hui?
Oui, très clairement. Les coûts et les charges que subissent les personnes en situation de handicap augmentent. Et la seule AAH ne permet pas de faire face à l'ensemble des dépenses. Alors on peut penser aux dépenses liées à l'énergie, à l'essence, enfin à l'augmentation des prix de l'alimentation, enfin tout ce qui concerne d'ailleurs l'ensemble des Français. Donc il faut absolument que ces l'AAH et les pensions d'invalidité soient revalorisées.
Vous rappelez que les personnes handicapées subissent des discriminations quotidiennes qui persistent et vous demandez au nouveau ministre d'y remédier. Par quel type de mesures cela doit passer?
Effectivement, il faut rappeler que l'ensemble des personnes en situation de handicap subissent au quotidien un grand nombre de discriminations. Alors ça va concerner tous les aspects de la vie, ça va concerner l'accès au travail, ça va concerner l'accès au logement, mais ça peut aussi concerner l'accès aux activités sportives, culturelles, etc. Ça peut concerner également l'accès à l'école. Donc les mesures, eh ben, elles sont finalement relativement simples. Hein. On souhaite que tous les freins, toutes les barrières aujourd'hui existantes soient levées. Alors c'est pas une mince affaire. Donc il va falloir que le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées,
Jean-Christophe
s'y attelle, exactement, mais pas que. Encore une fois, c'est vraiment l'ensemble des ministres qui doivent s'atteler à la tâche. Et on peut notamment penser, par exemple, à l'accès aux établissements recevant du public. Hein, ce sont les petits commerces pour lesquels on attend leur mise en accessibilité depuis près de 50 ans. Donc voilà, il est très certain que pour ce nouveau gouvernement, il y a un gros travail en perspective pour rendre bien meilleur le quotidien des personnes en situation de handicap en France.
Et on l'entend, la composition de l'Assemblée nationale est un élément qui a tendance à vous satisfaire aujourd'hui, cette majorité relative et la présence des différents groupes qui sont représentés, et notamment l'Alliance de gauche.
C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pour un certain nombre de sujets, on pourrait avoir des coalitions, une majorité de députés qui pourraient voter des mesures, des dispositions en faveur des droits des personnes. Ce qui n'a pas toujours été le cas lors du dernier quinquennat. Et encore une fois, on soulevait la question sur la déconjugalisation de l'AAH. Donc effectivement, on espère que ça pourrait aboutir. Après, on verra. Peut-être que sur d'autres sujets, on aura des coalitions contraires. Et là, eh ben, écoutez, on continuera, nous, à se battre pour faire valoir les intérêts et les droits des personnes.
Et vous allez vous entretenir prochainement avec les ministres en charge de ces questions, Jean-Christophe Combes et Geneviève Darrieussecq.
Tout à fait. On a déjà, ou on va très bientôt le faire, solliciter un rendez-vous. Et ce sera l'occasion de mettre sur la table les sujets urgents à traiter. Très rapidement, dont la question du pouvoir d'achat.
Le coordinateur national du collectif handicap, Stéphane Lenoir. Premier test et premier échec, le gouvernement français, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'a pas réussi à faire adopter dans son intégralité son projet de loi sur le pass sanitaire. L'article 2 a été rejeté, il prévoyait la possibilité si nécessaire de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Il entérine néanmoins l'expiration de l'état d'urgence sanitaire et du régime de gestion de la crise mis en place fin mai 2021. Le texte est donc désormais réduit pour l'essentiel à son article 1, qui permet, en raison d'une situation épidémique toujours fragile, de continuer à collecter des données de santé sur les tests de dépistage. Le projet de loi doit désormais aller au Sénat. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2022. Le Maroc jouera ce soir face au Botswana, une rencontre à partir de 21h heure de Rabat. Le Botswana marquera ainsi sa toute première apparition en phase finale d'une CAN féminine. Enfin, sachez que Radio Orient poursuit l'extension de son réseau de diffusion. Votre radio est disponible à Beaune, en Côte d'Or, en DAB+. Ce nouveau lancement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 35 secteurs en DAB+, 11 sur la bande FM. Pour bénéficier de l'écoute des radios diffusées en DAB+, il suffit d'avoir un poste ou un autoradio équipé de cette technologie. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi 18. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.